Donc, il y a un mois, je suis revenu de voyage avec mes amis. On est allé en Chine et en Cogne. Et quand je voulais revenir en Corée, mon vol a été retardé. Donc, je suis arrivé en retard pour mon examen. Et évidemment, je n'avais pas eu le temps d'étudier puisque j'étais en voyage. Mais j'ai quand même réussi à avoir 32%, ce qui m'a permis de passer l'examen et le cours.
Allô tout le monde, bienvenue au 6e épisode de Contrôle Bac. Aujourd'hui, on a reçu Titouan et Eva, deux étudiants d'échange, nous venant directement de Paris.
On a eu la chance d'avoir une belle discussion avec eux. Ils nous ont expliqué le processus de sélection pour venir étudier à l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qu'ils aiment du Québec? Qu'est-ce qu'ils sentent? Des trucs qui s'ennuient, en fait, de leur vie parisienne. Donc, c'était vraiment un bel épisode. Bonne écoute!
Bon, ben, allô, Titouan, allô, Eva, comment ça va aujourd'hui?
Ça va et toi?
Super et toi?
Oui, ça va super, toi, Laura?
Je vais bien aussi, merci.
Alors, on est super joyeux aujourd'hui de vous accueillir dans notre studio, là, directement de la France. Donc, vous êtes étudiants d'échange. Vas-y, Laura, continue.
Ben, c'est ça, on avait envie de vous recevoir, puis merci encore d'avoir accepté notre invitation. On a envie de connaître les dessous d'un échange étudiant à l'Université de Sherbrooke. Je veux entendre votre parcours académique, comment ça fonctionne en France, les similarités, les différences avec l'école ici au Québec. Fait que je vous relancerai tout de suite la balle si vous avez envie de nous expliquer un petit peu là, comment ça fonctionne dans votre coin de pays.
OK. Déjà, merci de nous recevoir. C'est très gentil, c'est hyper intéressant. Alors, il faut savoir que de mon côté, moi, je suis étudiant en communication à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, donc à Paris. Et donc, je suis en deuxième année à Paris. Avant ça, j'ai fait une année de... En France, on appelle ça les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est des classes qui sont très intensives pour intégrer les meilleures écoles... ce soit, soit de commerce, soit d'ingénieur, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas trop ce que je voulais faire. Moi, personnellement, j'étais en prépa commerce. Okay. Donc, ça retouche un peu au domaine de la communication sur certains sujets. Après, je me suis réorienté vers une filière de communication à la Sorbonne Nouvelle, du coup. Et donc là, je suis en deuxième année. Ici, vous appelez ça baccalauréat. Nous, c'est licence. Donc, je suis en deuxième année de licence information communication à la Sorbonne Nouvelle. Et là, du coup, on échange juste pour la session à l'Université de Sherbrooke. Donc, on va vous raconter un peu toutes les démarches. C'est assez long. C'est, pour certaines personnes, assez compliqué. vous en racontera plus. Mais c'est très intéressant.
Puis, si je peux me permettre, avant qu'on passe à Eva, il n'y a pas d'année de préparatoire, prépa, pour rentrer en communication. Genre ça, tu peux y aller directement?
Non. Une fois qu'en France, on a un diplôme qui s'appelle le baccalauréat. C'est le diplôme à la fin du lycée.
Okay.
Donc après ça, vous pouvez vous inscrire dans tous les types de formations. Donc ça peut être à l'université, on a des formations plus courtes aussi en France. Je pense que vous en avez d'autres aussi au Québec, mm-hmm. autres que l'université.
Ouais.
Formation en 2 ans, 3 ans, 1 an des fois.
Ouais.
Une fois que tu as ce diplôme-là, tu peux t'inscrire dans à peu près la formation que tu veux. Ça, c'est les gens par exemple qui veulent faire médecine. Il faut qu'ils aient étudié un peu les sciences, les maths, etc. avant de pouvoir rentrer là-dedans. Mais c'est assez libre quand même. On peut okay. choisir. Une fois qu'on a ce diplôme, c'est un peu une porte d'entrée mm-hmm. vers les études supérieures.
OK. Ben, c'est quand même intéressant. Il y a moins d'échelles, mettons, qu'ici, il ouais. Faut passer par différentes écoles. Toi, Eva, en quoi tu étudies présentement?
Du coup, pour rebondir sur ce que Titouan disait, au lycée, les deux dernières années, parce que du coup, nous, c'est 3 années le lycée, les deux mm-hmm. dernières années, on doit choisir 3 spécialités et la dernière année, on abandonne une des 3 spécialités et du coup, on n'en a que 2.
Okay.
Et moi, par exemple, j'avais pris SES, donc sciences économiques et sociales, et anglais, enfin littérature anglaise. Mmh. Donc voilà, j'ai eu mon bac à 18 ans. Et ensuite, je suis passée en licence AES. Donc, licence, c'est l'équivalent de baccalauréat.
Ouais.
Voilà, donc c'est 3 ans. Et AES, c'est administration économique et sociale. Donc, c'est vraiment très général. Parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après le lycée.
Mmh.
Et donc, comme matière, on a de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, des maths... sciences politiques, du droit.
Ah, okay. Ah, c'est quand même large.
Ouais, c'est très large, mais justement, en fait, pour les gens comme moi, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça permet de toucher un peu à tout, mmh. et après, plus tard, on peut se spécialiser. Et du coup, là, je suis dans ma 3e année, et voilà.
Okay.
Et je suis à l'université Paris, hein, Panthéon-Sorbonne.
Puis, mettons, la distance entre vos 2 universités, ça ressemble à quoi, à Paris?
C'est-tu loin?
En fait, ici, les universités en France, c'est très différent que ce qu'il y a, pas seulement au Québec, mais en Amérique du Nord en général. Vous, par exemple, quand vous dites l'université, c'est la faculté des sciences et lettres humaines, la faculté de gestion, etc. Nous, en France, par exemple, quand on dit on va à la fac, c'est on va à l'université. Pour nous, l'université et la fac, c'est la même chose. Par exemple, moi, mon université est spécialisée dans les lettres, les sciences humaines, la communication, les médias, etc. Ça, c'est une université à part entière.
Ok, c'est ça.
Donc, en fait, c'est plusieurs. C'est comme si tous les bâtiments qu'il y a, par exemple, sur le campus de l'université de Sherbrooke, c'était des facs individuelles, en fait. Ouais. En France, il y a des universités spécialisées en sciences, en histoire, en droit, etc. Mais il n'y a pas d'énorme campus qui regroupe toutes ces différentes matières, en fait. Donc, nos universités sont à plusieurs kilomètres d'écart. C'est pas du tout.
Je dirais, c'est peut-être à 20 minutes.
Okay. Oui, mais
c'est pas très long.
Même si le nom Sorbonne est le même, c'est segmenté, en fait, c'est très différent. Okay. Moi, je vais jamais dans son campus, elle vient jamais dans le mien, par exemple.
Puis, est-ce que c'est comme la même direction ou vraiment pas du tout?
Non.
Le bureau des directions, moi, est dans le campus de la Sorbonne principale, mais c'est vraiment des trucs très différents, c'est des formations qui sont totalement différentes. Voilà.
Ah ben, c'est intéressant. Puis si je retourne un peu, Eva, sur ton parcours, tu dis que tu pourrais te spécialiser après. Est-ce que tu as une petite idée de où est-ce que tu veux t'en aller par la suite ou tu n'es pas encore certaine?
Les deux dernières années, j'ai beaucoup fait de droit. Okay. J'ai plusieurs matières de droit qui se sont rajoutées. Et du coup, ça m'intéressait bien, le droit. Donc pour après faire un master, donc une maîtrise de 2 ans. Donc j'hésite entre droit du travail ou droit de l'environnement. Okay. Mais le problème avec ma licence, c'est que comme c'est très général, on est moins mis en avant que des étudiants en licence de droit, en licence d'économie. Mais après, je peux mettre en avant cette pluridisciplinarité.
Wow.
Je peux mettre ça en avant en disant que oui, ok, j'ai peut-être pas toutes les connaissances en droit, mais j'ai les bases. Et en plus, j'ai des connaissances en économie. Mmh. Et du coup, le fait de venir aussi à Sherbrooke, c'est quelque chose que je peux mettre en avant, surtout pour le droit de l'environnement, parce que j'ai l'impression que Sherbrooke est vraiment très engagé dans l'environnement. Ouais. Donc voilà, ça pourrait être bien.
Puis tu parlais justement de comme te mettre de l'avant. Puis comment ça fonctionne pour votre master? Est-ce que c'est vous devez écrire une lettre de présentation? Est-ce que c'est des entrevues? T'sais, c'est quoi le processus de sélection si jamais tu voulais t'en aller en droit, mettons?
Alors, je ne suis pas totalement renseignée pour l'instant parce que les démarches, elles commencent en février.
Okay.
Donc en février, on a une plateforme qui va s'ouvrir. Ça s'appelle Mon Master. gouvernement.
Ouais.
Et donc, on a accès à toute une liste de masters. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt dans les universités. Il n'y a pas les écoles privées.
Okay.
On a 15 choix, dont des sous-choix. Donc, ça peut rajouter des choix en plus des 15. Mais voilà, et puis, on peut aussi chercher dans ce site-là. On peut rentrer par exemple la licence qu'on a et ça nous propose les masters qui sont ouverts à notre licence.
Okay.
Donc voilà, en février ça va commencer à, enfin la plateforme va s'ouvrir, donc on pourra voir tous les masters qui sont disponibles parce que selon les années, il y en a qui sont rajoutés, il y en a qui sont supprimés, donc voilà, ça change. Et après je pense que je vais débuter à faire les démarches en mars peut-être. Donc, pour revenir à avant aussi, entre le lycée et du coup les études supérieures, on a l'équivalent, enfin la même plateforme, ça s'appelle Parcoursup. Donc du coup là, c'est pour rentrer dans les études supérieures. Et du coup, mon master, c'est après la licence pour faire le master. Okay. Et c'est le même principe, j'ai l'impression. Enfin, en gros, pour chaque vœu, on doit faire une lettre de motivation. Donc, ça fait quand même beaucoup, 15 lettres de motivation. Ah oui. Voilà. Et après, des fois, je sais qu'il y a des masters qui donnent des sortes de travaux. Donc, ça peut être un sujet et on doit écrire dessus. Ouais. Enfin, après, tu le fais chez toi, tu prends le temps que tu veux, mais c'est quand même...
Faut que tu le fasses
sérieusement. Voilà. Et après, tu as une phase d'acceptation. Et je crois que tu peux avoir des entretiens avec les masters. Et après, si tu réussis les entretiens, tu es pris. Donc,
c'est un gros processus.
Ouais, c'est un gros processus. Enfin, ouais. En fait, ça nous prend tout le... de février à juin, juillet.
C'est quand même. Ici, tu t'es inscrit à la maîtrise, t'es accepté ou t'es refusé.
Ouais, c'est comme, ils regardent les notes.
Ouais. Mmh.
Mais sinon,
il y a beaucoup plus de procédures et d'étapes, en fait, que ici, j'ai l'impression. Mmh. Mais que ce soit dans tout, bah, on va y venir, mais même sur les échanges à l'étranger, c'est très, très long. Enfin, l'administration, en tout cas, pour l'éducation en France, est beaucoup plus... Contrôler, c'est pas le mot, mais il y a beaucoup plus d'étapes et de deadlines, etc. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas.
Avant qu'on continue, je voulais... ici, vous êtes considéré à quel programme en tant qu'étudiant d'échange? Là, toi, on s'est rencontrés dans un de nos cours en communication. Mmh. Fait que j'imagine que t'es quelque chose en communication appliquée. Mais toi, Eva, t'es au BAA ou t'es en droit? En quoi t'étudies en ce moment?
Non, moi, je suis dans l'école de gestion. Et je suis en baccalauréat en administration des affaires.
OK, c'est ça.
Parfait.
Good. Puis t'es en communication
appliquée. C'est ça, communication appliquée.
Ouais. OK, parfait. Cool.
J'espère.
On peut continuer pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. On va demander une question difficile, mais on la demande à tous nos invités. Okay. Décrivez-vous en trois mots. Ben, ça peut être un peu plus que trois.
Quoi? J'ai une idée. Dis-toi, faut que tu décrives.
Oui, en trois mots. Parce qu'on a aussi oublié de dire que c'était des amoureux en plus.
Oui.
En plus. Donc, ils se connaissent quand même.
Ben, si ça vous tente.
Ouais.
OK. Je vais dire pour Eva... enthousiaste, travailleuse et un peu stressée.
Oh. Ok,
t'as raison.
Oh, c'est bon.
Toi, je dirais, t'es.
Imagine si la révélation est comme. Ouais. Il est vraiment énervant, il est puant.
Mais je sais pas si je dois vraiment répondre dans le cadre de l'échange ou en général dans la vie.
Ben, pour apprendre à vous connaître,
ouais, en général.
Bah, je dirais que t'es très curieux. Genre, je sais pas, t'aimes bien raconter des fun facts. je sais pas, tu sens un peu des trucs aléatoires des fois, j'aime bien. Ouais, aussi ouvert. Et comment on dit en français? Enfin, genre, tu aimes aider les gens.
Ok.
Voilà.
Okay. Empathique.
Ouais, un peu.
Ok.
Ben, c'est des très bons compliments.
Très beaux mots, ouais. On se connaît pas beaucoup, mais je suis d'accord que t'es ouvert et tout. T'es venu avec nous dans un cours,
bah,
etc.
Pas de soucis.
Fait que,
une chance que t'es venu nous voir, sinon on vous aurait sûrement tout sur le podcast.
Exactement.
Ben, moi, je poursuis avec une question encore sur le sujet de l'échange. Mmh. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à venir en échange, à faire un échange? Puis après ça, qu'est-ce qui vous a attiré de la ville de Sherbrooke? Puis pourquoi... cette université-ci pour votre échange étudiant?
Vas-y, je peux commencer. en fait, donc, quand lui, il était en classe préparatoire, le truc super dur, là, il était un peu perdu. Enfin, désolé, je parle à ta place.
Non.
Mais voilà, il était un peu perdu et on se disait ensemble, t'inquiète, ça ira mieux. Un jour, on partira ensemble au Canada. Je sais pas. Plutôt, moi, je disais plutôt après le master, comme ça. Enfin voilà, entre la fin des études supérieures et le début de l'entrée sur le marché du travail. Voilà, on s'est dit prendre, je sais pas, une année, un truc comme ça. Mais bon, du coup, le master, c'est pas maintenant. Mais entre-temps, c'était l'année dernière, quand j'étais en deuxième année de ma licence. C'était à peu près à cette période, début septembre, début octobre, je ne sais plus trop. J'ai eu une présentation du fait que mon université, elle offrait des programmes d'échange. Et donc, eux, ils nous présentaient ça en deuxième année, pour qu'on le fasse en troisième année, parce qu'ils ne conseillent pas de le faire plutôt, enfin, disent c'est mieux en troisième année. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi, mais je me suis dit, je vais quand même regarder sur leur site. Et sur leur site, ils ont une carte des mobilités. Donc, c'est un site avec des filtres. Donc, tu mets ton école, enfin, ta faculté. Ta licence, voilà. Après, tu peux dire aussi les pays que tu veux, mais moi j'étais ouverte, donc j'ai regardé. Et je trouvais, enfin je sais pas, je trouvais que le Canada ça avait l'air sympa. Je saurais pas trop dire pourquoi le Canada et pas un autre pays.
Ouais.
Même nous on habite en France, donc le...
Il y a la langue et tout qui est beaucoup plus simple.
C'est... Oui, mais aussi j'allais dire le programme Erasmus est très développé. Genre on peut partir très facilement en Allemagne, en Espagne, mais je sais pas, le Canada...
C'est sur un autre continent quand même.
Ouais.
C'est, ça, c'est des paysans quand même un petit peu.
Après du coup, quand j'ai regardé le Canada, j'avais accès, enfin je pouvais postuler à plusieurs universités. Donc j'ai fait trois choix. Mon premier choix... C'était pas Sherbrooke. C'était l'université d'Ottawa.
Ok. Ouais.
Donc là, c'était pour des cours en anglais. Ouais. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien, enfin, d'avoir des cours en anglais, quoi. Ouais. Le deuxième, c'était l'université de Sherbrooke. Et le troisième, c'était pas du tout le Canada. C'était en Angleterre, l'université de Birmingham.
Ok.
Voilà, aussi pour le côté anglais. Okay. Mais sinon, au Canada, j'avais d'autres choix. Je ne me souviens plus trop, mais j'avais
peut-être McGill. Montréal. Ah, McGill, ouais.
McGill et Chicoutimi.
Ok.
Chicoutimi, voilà, ça avait l'air un peu perdu. Donc.
C'est effectivement très perdu.
On a entendu des choses, des échos, comme quoi c'était un peu perdu.
Ouais, et McGill, je n'ai pas tenté parce que j'avais un peu la flemme de passer un certificat en anglais, le TOEFL, le TOEIC, je crois que c'était un des deux, enfin ou les deux.
Ça. Ouais, ça coûte 150, cher. 200 euros.
Oh mon Dieu, c'était
quelque chose que t'es même pas sûr d'avoir, quoi.
C'est ça. Du coup, je me suis dit, je vais miser sur Ottawa, Sherbrooke. Après Birmingham, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ah mais pourquoi j'ai mis ça, j'aurais pas dû mettre ça. Mais ça m'a. Je sais pas.
C'était des très, très bons choix, je pense. Même Ottawa, dans notre capitale.
Ouais.
C'est une belle université.
En plus, l'université d'Ottawa, elle a des cours en français et en anglais. Fait qu'on aurait pu rencontrer un peu du monde de tes deux langues. Fait que c'est vraiment cool pour l'intégration. Puis toi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir?
Oui, moi, comme je l'ai dit avant, avant ma licence, donc baccalauréat, j'étais en année de classe préparatoire. C'est hyper intensif. C'est du... 8h, 20h, 6 jours sur 7, facile.
Oh mon Dieu.
Avec des exposés tous les soirs en 1 contre 1 avec le professeur.
Quoi? Mais c'est quoi ça?
C'est fait pour, en fait, c'est vraiment des programmes qui sont faits pour préparer à des concours, donc à des entretiens. En fait, tu travailles à fond pendant 2 ans pour une période de 2 semaines où tu vas passer des concours écrits et oraux. Donc c'est vraiment, ça te stimule là, c'est très intéressant, mais c'est très lourd. Et donc moi, le Canada en fait, ça m'a toujours, mais depuis tout petit, ça m'a toujours chauffé. C'est un pays que j'ai toujours admiré. Et donc oui, pendant cette période-là, je me disais, après tout ça, je vais partir un an, etc. Ouais. Et du coup, après, Eva m'a parlé du fait que je vais peut-être aller au Canada l'année prochaine, etc. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas en fait, pourquoi attendre 4-5 ans alors que je pourrais partir l'année prochaine. Donc moi, mon université en France, la Sorbonne Nouvelle, est très ouverte sur les programmes d'échange. C'est l'université qui fait le plus de programmes d'échange en France.
Ah, cool.
C'est l'université en France qui est le plus ouverte à l'international. Dans ma classe l'année dernière en France, j'avais 4 ou 5 étudiants internationaux à tous mes cours. Donc, donc j'ai toujours été un peu dans cet environnement, même si j'étais dans le côté du pays d'accueil.
Ouais.
Donc j'ai toujours été ouvert à ça. Et donc après Eva m'a parlé du Canada, etc. Et je me suis dit, soit il n'y a rien qui me retient ici. C'était pas trop dans mes idées, mais ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, en fait. Elle a raison, en fait.
Ouais.
Et du coup, j'ai regardé aussi l'université ici. Et donc, moi, je voulais vraiment rester dans la région. C'était soit à Montréal, soit à Sherbrooke. Parce que Montréal, j'ai de la famille, enfin des amis très proche de ma famille là-bas. Donc ça fait un point un peu d'ancrage, de repères, etc. Mm-hmm. Et à Sherbrooke, en fait, moi, à côté, je suis photographe sportif. Et j'ai un joueur que je connaissais qui joue à l'université de Bishop, au basket. Donc ça faisait un autre point d'ancrage.
Des repères,
et en plus, Eva avait mis Sherbrooke comme choix. Donc ça croisait un peu tout. Donc j'étais vraiment dans mes choix, c'était soit Montréal, soit Sherbrooke. Mais c'est tout, quoi. Donc voilà.
Puis là, ça leur a donné que les deux, vous étiez à l'université.
On s'y attendait vraiment pas du tout.
En fait, nous, on était dans l'optique. Genre, moi, parce que moi, je pensais que t'allais être pris à Montréal et moi à Sherbrooke.
Deux choix à Montréal et un choix à Sherbrooke.
Du coup, je regardais à peu près le trajet Sherbrooke-Montréal, Montréal-Ottawa. Et en fait, c'était rassurant parce que c'était vraiment pas loin.
Comparé au Canada, c'est un peu quand même dans la même zone.
Oui, c'est sûr.
Oui.
C'est pas... Je suis pas à Vancouver, etc.
C'était ça ma question. C'était si vous n'étiez pas pris les deux, est-ce que vous alliez le faire chacun de votre
côté? Je pense quand même. Je pense quand même.
C'est parfait. Courageux, c'est trop cute.
Ouais, mais les statistiques, enfin, le pourcentage de chances qu'on soit sélectionné dans le même programme est quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de candidats qui demandent ça. Il y en a beaucoup qui se font refuser aussi. Donc c'est basé sur des critères de notes, etc. Mais ça, on pourra en reparler. Mais le fait qu'on soit sélectionné déjà, qu'on soit autorisé juste à partir, c'est déjà quelque chose. Dans le même pays et dans la même ville, c'est...
Et la même université, parce qu'il y a deux universités.
Il y a deux universités en plus.
C'est vrai.
Enfin, un truc de ouf.
Puis est-ce que vous l'avez su comme en même temps, comme dans les films?
Non, pas
l'enveloppe ouverte en même temps.
Pas en même temps.
Il y
avait
un mois de différence entre chacun quand même. Donc c'était un peu stressant.
C'est qui l'a su en premier?
On va dire du coup les étapes. Du coup, en octobre, le 12 octobre, je me souviens, j'ai commencé à faire mon dossier et je l'ai rendu le 12 décembre. Et après, j'ai eu la réponse le 24 janvier, je crois, ou le 25, 26, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était la réponse que mon université acceptait que je parte à Sherbrooke.
Ouais.
C'est ça.
Et ensuite, j'ai dû... il y a des choses qui se sont passées entre-temps. En gros, de base, je devais aller à la faculté de droit. On était trois dans ma licence à être sélectionnés pour aller dans la faculté de droit. Donc, en fait, quand on fait notre dossier, on a un formulaire qui s'appelle le contrat d'études. Donc, on a d'un côté...
Il y a des flashbacks.
On a d'un côté nos matières en France et de l'autre côté les matières qu'on choisit à Sherbrooke.
Ouais.
Du coup, moi, le truc, c'est que être que dans une faculté de droit, c'est un peu compliqué parce que j'ai aussi, certes, beaucoup de droit, mais j'ai de l'économie, de la sociologie. Donc, faut savoir que il nous avait dit que c'était possible de mélanger deux baccalauréats, pardon, dans deux facultés différentes. Donc, du coup, j'ai envoyé un mail, je ne sais plus exactement à qui, registraire de l'école, je ne sais plus, quelqu'un des étudiants internationaux. Et j'ai demandé, est-ce que c'est possible de prendre à la fois des cours dans l'école de gestion et dans l'école de droit? Et cette personne a transféré mon mail à celle qui était chargée des relations internationales de mon université. Et elle a dit, c'est qui cet élève? Normalement, en faculté de droit, on prend que des élèves de licence de droit. C'est quoi cette licence AES? Ça correspond pas. Du coup, moi, j'étais... Enfin, je voyais le mail, j'étais là en mode, genre, surtout, me parlez pas à moi.
Pourquoi tu m'as snitch comme
mais
ça?
Mais oui, et après... la chargée des relations internationales, elle m'a envoyé un mail en mode « Ah, mais je vous ai dit de ne pas envoyer de mail à l'université. » J'étais en mode « Mais... » Enfin, du coup, je devais cacher que j'étais dans une autre licence. Enfin, très bizarre. Du coup, j'étais en mode « Bon, ok, maintenant, on fait quoi ?» Donc, un peu paniquée toutes les deux avec ma chargée des relations internationales. Elle m'a proposé deux choix. Elle m'a dit « Soit je te donne... » ton premier choix, qui était Ottawa, faculté de droit, soit tu fais un parcours, BCI, je sais plus à quoi ça correspond les lettres, mais BCI pour l'université de Sherbrooke, juste à l'école de gestion. Et elle m'a dit, par contre, c'est pas sûr que tu sois prise, alors que l'université d'Ottawa, en faculté de droit, c'est presque sûr que tu seras prise. Et comme Titouan, lui, avait été présélectionné pour l'université de Sherbrooke, je me suis dit, aïe, je vais plutôt tenter le BCI, même si c'est pas sûr que je sois prise, je sais pas, je le sentais bien, Et au final, j'ai été prise, et je l'ai su J'y suis quand? Peut-être... Ah non, je sais, je l'ai su genre une semaine après mon anniversaire, pendant ma période de partiel, enfin...
C'est comme un soulagement, moi, quand tu
l'as
reçu. Ouais,
donc j'ai reçu vers le 20 mai, je crois. Ok. Non, peut-être 15 mai. Et toi, t'avais reçu genre au moins le 30 mai. Enfin, il y avait bien eu 2 semaines de différence, quoi.
C'est ça, ouais. On n'avait pas, on n'était pas dans les mêmes timelines. En fait, c'est vraiment en deux temps quand tu fais une demande d'échange. D'abord, il y a ton université qui accepte que tu partes. Et en fait, après, il faut que l'université à laquelle t'as été accepté de partir t'accepte.
Ouais.
Parce qu'on aurait pu passer la phase 1. Donc, moi, l'université de la Sorbonne Nouvelle aurait pu dire oui, on t'autorise. Mais l'université de Cherbourg aurait pu me dire non, on veut pas que tu viennes. Et donc là, le programme d'échange aurait été annulé. Donc, nos timelines étaient un peu différentes à 2 semaines, 1 mois près, à peu près. Mais moi, ça s'est très bien passé. Donc, au début, on doit faire des lettres de motivation de pourquoi ça nous semble cohérent. D'ailleurs, là, on peut pas juste dire je veux aller à Birmingham parce que j'aime bien la ville. Il faut dire pourquoi c'est cohérent pour notre projet, enfin, des trucs un peu classiques qu'on a à l'école. Et après, il y a le relevé de notes, etc. C'est beaucoup sur les notes aussi, ça compte. Moi, il fallait que j'ai 12,5 de moyenne pour être sélectionné. Si j'avais en dessous, j'aurais pu être le candidat idéal, mais j'aurais pas été pris.
Peut-être ils savent pas ce que c'est 12,5
de moyenne. Ah oui, c'est sur 20. 12,5 sur 20.
Ok.
Nous, on est sur 20 en France. Okay. Donc, ça nous fait un peu bizarre d'être sur 100 ici.
Ouais, ouais, 60, ouais, c'est très logique. Mais...
Ouais.
Ben ouais.
Non, mais du coup, c'est très différent. Mais il y avait une réserve de notes, en fait. Si j'avais pas telle note, je ne pouvais pas partir. Mais j'ai réussi à avoir ces notes. Donc, j'étais plutôt content.
Oui.
Merci. et donc, après, oui, on est sélectionné et on est autorisé à partir. Et donc là, après, il faut candidater auprès des écoles. Donc au niveau des 3 choix. Et donc il faut choisir ses cours. On ne peut pas choisir n'importe quel cours en fait. Il faut que les cours qu'on choisisse soient équivalents à notre programme en France. Donc on est tout le temps en train de parler à notre responsable de programme en France et au responsable de programme du coup à l'université de Sherbrooke pour dire est-ce que tel cours correspond bien à tel cours, est-ce que celui-là correspond bien à celui-là. Et après dans tout ça, on fait un pack de 5 cours. Donc nous en échange on ne suit que 5 cours qui correspond à notre quinzaine de cours qu'on a en France.
15 cours wow,
attends.
Entre 10 et 15 cours à peu
après,
près.
Après, ce n'est pas le même volume horaire. Okay. Vous, les cours, c'est 3 heures.
Ouais,
nous,
ouais.
On trouve que c'est énorme. Bah, oui, enfin, c'est moi, perso, mes cours, c'est 1h30 de cours magistraux et 1h30 en classe. Mais enfin, je ne sais pas, ce n'est pas un gros
mais c'est quoi la différence entre 1h30 de magistraux et 1h30 en classe?
Bah, en fait, des fois, j'ai des matières où j'ai que des cours magistraux et des matières où j'ai que des cours en classe. Enfin, du coup, oui, j'ai des cours de 3 heures, mais coupés en deux.
Ouais.
Et j'ai des cours que de 1h30. Enfin,
mais 10 à 15, c'est énorme.
Non, mais c'est pas mais au final, je crois que c'est le même volume horaire.
Le volume horaire est assez similaire, en fait.
Ouais.
Nous, les cours magistraux, t'es dans des énormes amphithéâtres. On est 200, 250, 300. Alors, à Paris, il y a des grosses universités de droit, notamment. En première année, quand il y a tout le monde qui vient, ils sont 800 000 dans l'énorme amphithéâtre. Donc là, c'est des cours, vraiment, le professeur lit son cours, lit les grands concepts, les grosses théories. C'est ce qu'on appelle les cours magistraux.
Ouais.
Ensuite, les cours en classe, on appelle ça des travaux dirigés. Donc là, on est en petit comité, on est 30, 20.
Okay.
Et donc, on approfondit un peu plus. Par exemple, ceux qui sont en maths, ils font des exercices.
Ouais.
Nous, on va lire des textes. Moi, par exemple, avec les médias, on va lire des textes, on va discuter. En amphithéâtre, on est 1000, on est 300, 400, on peut pas trop lever la main, etc.
Ouais.
Donc nous, c'est vraiment divisé entre ces deux gros concepts, quoi.
OK. Puis mettons les 15 cours, est-ce que... Tu sais, j'imagine, vous avez pas les 15 cours chaque semaine?
Si, ouais.
Mais voyons.
Mais le volume horaire est à peu près le même. Alors, j'ai...
On dirait que ça mate pas dans ma tête.
Non, mais c'est... En fait, moi, par exemple, l'année dernière, j'avais 10 cours à peu près, entre 8 et 10 cours à peu près. Mais en tout, ça me faisait 16 heures de cours, 17 heures par semaine. Donc en fait, ça va, j'avais même des journées off. J'avais 2 journées off carrément. Wow. Donc,
ça te faisait des grosses journées.
Ça fait des grosses journées, mais des fois, c'est totalement dispatché. Donc t'as un cours par-ci, un cours par-là. Donc ça va.
Ok. Mais je pense aussi que ça fait penser un peu au cégep, là. Je veux dire, ouais. T'as plus de cours, mais ils sont plus courts. Ou, mettons, des universités comme plus McGill, je pense, ça fonctionne plus comme ça aussi, là. Des genres de gros amphithéâtres, des travaux pratiques. Versus ici, c'est juste des petits groupes, directement.
C'est ça. Ouais, c'est ça, on n'est pas beaucoup dans nos classes, là, vous l'avez vu, mais c'est comme, quoi, une cinquantaine maximum. En gestion, un petit peu plus qu'en lettres
et sciences. En gestion, je crois, j'ai des cours où on est au moins 60-70.
Ouais, c'est ça.
Mais... Enfin, jamais des fois, plus. C'est un peu bizarre. On est dans un grand amphithéâtre et genre on est 30.
Ouais.
Et après, on a des cours de labo. Donc, nous, c'est l'équivalent des TD. Enfin,
ouais.
Travaux dirigés. Et genre, on est re 30. Enfin, genre, ouais, je suis avec les mêmes gens dans les deux cours. Enfin,
ouais.
Alors qu'en France, c'est gros en cours magistraux et petit en TD. Quoi.
Ouais. C'est ça.
Ah, mais c'est vraiment intéressant de voir la différence.
C'est deux différences assez marquantes.
Au niveau du parcours, je pense en échange, je pense à notre ami qui est parti en échange, c'est quand même ressemblant, fait qu'au moins, c'est assez, dans l'autre sens aussi, je pense que ça ressemblait à ça, il fallait qu'elle se fasse accepter par l'UNI.
Puis je me rappelle aussi qu'elle faisait comme ça, correspondance de cours,
trouver qu'est-ce qui fonctionnait.
On peut pas choisir ce qui, moi dans mon cas, toi je sais pas si ça a été le cas, moi dans mon cas, il y a du coup la responsable du baccalauréat de communication appliquée qui m'envoyait une liste de tous les cours du baccalauréat. Qui avait une vingtaine, trentaine de cours facilement, voire peut-être même plus. Et à l'intérieur de ça, en fait, je devais les choisir. Et donc, pendant un mois et demi, deux mois, t'échanges constamment avec tous les coordinateurs, etc., pour faire accepter ou non ce cours. Donc, ça, on appelle ça ce document, on appelle le contrat d'études. Je l'ai facilement changé 3-4 fois. Parce que je le fais valider, mais en fait, dans les 5 personnes du processus, il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas d'accord. Il faut que je change ce cours, il faut que je le refasse valider par toutes les autres personnes. Et là, c'est une autre personne qui n'est pas d'accord. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver le bon ajustement, mais on a du choix. Au final, en fait, on arrive facilement à... Enfin, facilement, non, mais on arrive à...
Avec du temps et de la patience.
C'est ça, à trouver les cours qui correspondent, quoi.
Finalement, est-ce que vous êtes satisfait de vos horaires, de vos cours? Est-ce qu'il y a des cours que vous êtes comme... Je ne l'aurais pas fait celui-là,
communication. Mais... Ben, même en gestion, on a des cours aussi, nous, en gestion. Je serais curieuse de savoir c'est quoi les cours que vous avez.
Moi, comme cours, ce que j'ai, c'est du coup enjeux sociaux du numérique, le cours est ensemble. J'ai planification de la communication. Ça, de ce que j'ai compris, c'est un cours de première année. Donc, je répète un peu ce que j'ai vu l'année dernière, mais c'était un cours qui fitait un peu partout dans mon contrat d'études. Donc, j'ai préféré le laisser comme ça. Ça me cassait moins la tête.
Je pense que c'est genre le cours préalable à tous les cours.
C'est ça. J'ai analytique web. J'ai communication politique et mon dernier cours, je sais plus ce que c'est.
On le savait,
chaque fois tu l'oublies.
Donc, j'ai dit planification de la communication, analytique web,
enjeu.
Ah, et introduction à la pub.
Ah, ça c'est voilà. Ok, mais t'as-tu deux fois le même prof? T'as-tu deux fois Nicolas?
Oui. Nicolas. Je le vois le mercredi et le vendredi du coup.
Il est gentil, mais il est sévère.
Ah bon?
C'est pas ça. Ouais.
Le pauvre.
On le salue. Non, même, faut l'aimer, mais il est sévère dans ses notes.
Ah.
Ben, c'est que c'est difficile à évaluer la créativité.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est des cours qui sont très abstraits.
Ouais.
Donc, j'imagine. Bah, j'ai pas encore eu de notes avec lui.
Ouais,
donc,
je verrai.
Si jamais t'as des questions aussi, planification de la com.
C'est ça.
Ouais. L'autre aussi, à la pub, on le fait. Ouais.
Ok.
Gêne-toi pas.
Yeah. Toi, ça ressemble à quoi ton horaire?
Alors, moi, déjà, le lundi, j'ai pas cours. Voilà, c'est très bien. Du coup, mes matières, j'ai éléments de gestion financière, statistiques préparatoires à l'économétrie, économie de l'environnement, droit corporatif et économie mondiale.
Okay.
Donc, économie mondiale, c'est que en visio, de chez moi.
Ouais.
Et pour éléments de gestion financière et statistiques préparatoires à l'économétrie, j'ai des cours magistraux et des labos.
Ouais.
T'as les ordinateurs en bas, genre?
Comment?
Faut-tu que t'ailles aux ordinateurs en bas avec...
Non, non, c'est des salles de classe normales.
Ah, okay.
Mais en fait, au début, la première semaine, j'avais pas exactement ces cours. À la place de économie de l'environnement, j'avais gestion des ressources humaines.
Ouais.
Mais dès le premier cours, je sais pas, j'ai pas trop accroché. Et on avait une semaine, deux semaines pour changer de matière. Du coup, bah, direct après le cours, j'ai envoyé un mail. Et chose géniale que je trouve ici, je ne sais pas si c'est Sherbrooke ou juste le Québec, mais l'administration, c'est très simple. Les gens te répondent très vite. J'ai envoyé un mail à 15h30. À 16h30, on m'avait déjà inscrit à mon cours d'économie de l'environnement. Ah, on m'avait annulé l'autre cours. J'étais là en mode waouh!
Parce que c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, en France, il aurait fallu envoyer plusieurs lettres, justifier son choix, En fait, ça aurait été vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Ouais. Et on aurait pu simplement nous dire non.
Ok, ouais, je vois.
Donc, en fait, ce qui diffère aussi beaucoup, c'est que ici, j'ai l'impression que vous pouvez un peu choisir. Vous avez des cours obligatoires, mais vous pouvez un peu les choisir de quand vous les faites.
Oui, il y a des options. Ouais, ouais.
C'est ça. C'est beaucoup plus modulable qu'en France. Ouais. En France, en première année, tu as un programme. Si t'es pas content avec ces matières, c'est pas ton problème. Tu dois les faire, tu dois les valider pour passer à la deuxième année. Deuxième année, pareil, t'as un programme. Si t'es pas content avec les matières, c'est pas le souci de l'université, c'est tu dois travailler.
Ouais.
Alors que ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Il y a des matières qui sont obligatoires, mais c'est un peu plus modulable quand même.
Mais je pense que ça dépend les programmes aussi. Mais nous, on a en communication marketing, ce qui fait que on n'a pas bien le choix. Là. C'est un peu c'est ça que tu fais, puis parce que c'est deux programmes ensemble. L'horaire est plus... On a genre deux cours options dans notre bac au complet.
Ouais.
Mais genre gestion ou juste communication appliquée, ils ont vraiment plus de choix pour le faire à leur goût.
Mais il y a comme des, des troncs communs. Puis
C'est ça.
OK, ben super. On jase, là. Je regarde le temps passer. Faut vouloir choisir nos questions.
Mais là, c'est parce que c'est trop intéressant.
Ouais.
vous avez un petit peu parlé des démarches, là. Fait que je pense que pour ça, c'était très intéressant et très clair. Rapidement, là, tu sais, ça ressemble à quoi les coûts que vous pouvez avoir? Est-ce que c'est comme payer la session? Parce que nous, ici, on paye comme l'université à la session. Est-ce que c'est comme ça aussi en France? Est-ce que vous... Tu sais, comment ça fonctionne pour les paiements de... d'université.
Nous, en France, il faut savoir que l'université, elle est publique. Donc, c'est-à-dire qu'on paye 250 euros.
De... Et ça dépend si t'es boursier ou pas.
Des fois, il y a des gens qui sont boursiers qui payent rien du tout. Moi, par exemple, je ne suis pas boursier, je paye 250 euros. Ils s'appellent ça les frais d'inscription. C'est pour la rénovation des bâtiments, etc. Mais c'est à peu près tout. Et donc, en fait, là, le programme d'échange... Par exemple, en fait, je suis toujours étudiant à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Et donc là, c'est juste dans mes 3 ans à la Sorbonne Nouvelle, j'ai juste un semestre qui est à l'étranger, mais je suis toujours sur le statut d'étudiant de la Sorbonne Nouvelle. Donc, on n'a pas payé, on paye pas de frais de scolarité à l'université de Sherbrooke.
Okay.
Il y a des gens, je connais des gens qui sont allés à l'université de New York à 20 000,
ah, c'est ça, c'est genre
25 000, 30 000, 30 000 l'année, qui payent juste les 250 de l'université en France. Donc c'est vraiment un glitch énorme.
Wow.
Par contre, tu peux faire qu'un an, comme ça. Si tu veux faire les 3 ans, tu es obligé de payer quand même.
C'est plus cher qu'une année d'étudiant normal. C'est genre le triple.
C'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus cher, mais ce qui fait qu'en fait, on paye juste notre logement, nos frais, nos courses ici, nos déplacements. Mais l'université en soi, on sait les 250, 300 de ce qu'on paye pour notre université en France, en fait. Donc, c'est pris en charge, en fait, par notre université haute.
Ouais. Donc, j'imagine que vous n'avez pas vraiment de bourse à louer à un échange, vu que ça vous coûte
Moi, je n'étais pas soumis à la bourse. Toi, je sais. Toi, t'as
moi,
un petit
j'ai
truc.
Fait un formulaire. Non, je n'ai pas du tout.
Autant pour
j'ai fait la demande pour avoir une bourse. En fait, ils nous ont dit que même si on n'est pas boursier en France, eux, ils reçoivent une enveloppe d'argent et ils peuvent distribuer comme ils veulent. Mais du coup, les étudiants boursiers sont prioritaires. Ouais. Et ils nous ont dit, nous, aux étudiants non boursiers, vous pouvez quand même postuler. Voilà, on ne sait jamais. Moi, j'ai postulé et au final, je n'ai pas eu de bourse. Mais c'est possible. Je pense que ça dépend des années.
C'est ça, ouais.
Parfait.
Le coût de la vie en général... Vous, j'imagine que là, vous êtes en appartement ici. Vous êtes en résidence?
Non, on est en appartement.
OK. Fait que, est-ce que ça vous coûte vraiment plus cher que chez vous ou moins
non,
cher?
Non, c'est à peu près les mêmes prix. Et ce qui est très intéressant, en fait, pour nous, c'est qu'il y a le taux de change entre les euros et les dollars canadiens. Fait qu'en fait, il est à 60% à peu près.
0,62.
Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, elle est très renseignée.
C'est le côté stressé qui revient.
Ce qui fait qu'en fait, quand on va acheter par exemple quelque chose à 1 dollar canadien ici, on va être débité que de 62 centimes. Ce qui fait qu'en fait, sur, je sais pas, La première fois qu'on est arrivé, la première semaine, on a fait... Du coup, on arrivait dans l'appartement, on n'avait aucune course, rien. On n'avait pas de pâte, de riz, etc. On a fait un énorme plein de courses à 300 $. Donc, un truc assez énorme. 300 ou 350, voire. Et en fait, on a regardé sur notre compte. On a été débité que de 200 €. Qu'en fait, c'est beaucoup plus... C'est hyper avantageux, en fait, le dollar canadien par rapport à l'euro.
Ouais, c'est ça.
Surtout en ce moment, en fait. Donc, au niveau coût, en fait, on s'y retrouve assez facilement.
Puis vous avez parlé que vous étiez en appartement. Comment vous avez fait pour trouver le logement? Est-ce que vous êtes les deux ensemble? Comment ça a fonctionné?
En fait, on avait commencé genre vraiment le jour où il a appris qu'il était pris.
J'étais accepté très tard, en fait. Ouais. Donc, pour tout ce qui était résidence universitaire, c'était un peu tard.
Et même, en fait, nous, on pensait que résidence universitaire, fallait minimum rester un an. Après, moi, j'ai rencontré d'autres étudiants internationaux qui m'ont dit qu'ils ont un peu bidouillé pour rester qu'un semestre. Mais voilà, du coup, nous, on ne savait pas. Et puis, on voulait aussi être ensemble.
Mm-hmm. Oui.
Donc, on avait regardé sur Facebook un groupe spécial logement étudiant à Sherbrooke. Mm-hmm. Donc, on a contacté beaucoup de personnes. Et ils nous disaient soit... Bah, en fait, soit c'était pas meublé et bon, on n'allait pas acheter tous les meubles pour un semestre.
On reste que 4 mois, donc acheter des meubles, etc. Ouais. C'était... Mm-hmm.
Ou sinon, ils nous disaient non, on prend que des bails minimum de 1 an. Donc, on s'est retrouvés un peu perdus. Mm. On se disait, là, on demande à des gens, mais ils nous refusent tous. Donc, on a commencé à regarder sur Airbnb. Et du coup, on a trouvé un appartement à 1 000 € le mois. Je ne sais pas comment ça fait en dollars canadiens.
Ouais,
genre
1 500
par mois.
C'est beaucoup. Mais
après, quand on divise par deux...
Ce qui est bien, c'est qu'on divise tout par deux.
Ouais.
Donc, c'est beaucoup plus confort.
Ouais. Et il est bien placé quand même.
Oui, il est bien placé. Et en fait, il y en a beaucoup qui font ça dans notre immeuble. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Parce qu'en fait... soit les gens ils ont pas de place en résidence universitaire parce que on sent que Sherbrooke il y a beaucoup d'étudiants. On a fait une réunion de rentrée avec tous les étudiants internationaux. On était facile 300-400. En plus des 30 000 étudiants à l'université de Sherbrooke, c'est énorme. Donc il y a forcément pas de place pour tout le monde. Plus les gens qui prennent par exemple sur les marketplaces Facebook, qui prennent les gens minimum sous 1 an, en fait, les gens ils sont obligés de se diriger vers Airbnb. Donc il y a plein de Airbnb en fait qui sont faits pour les étudiants internationaux.
Je savais pas.
Et donc nous, on est là-dedans. Et en fait, du coup, on a tout qui est compris. On a l'électricité, le gaz, etc. Ouais. Donc finalement, ça reste cher. Mais un truc un peu de... Pas de dernière minute, mais on était un peu dans le rush. On n'avait pas trop le choix non plus. On s'y retrouve
fin juin
facilement.
Pour arriver... Non, pas fin juin.
Début juin.
Fin mai pour arriver... 21 août.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ça vous
on avait un gros mois et demi, en plus c'est l'été, donc on était un peu dans le rush.
Ouais.
Donc voilà, Airbnb c'était un peu la solution.
Puis est-ce que vous êtes content de votre
logement? Ouais, franchement,
Très sympa.
En fait,
on
au fur et à mesure.
Au
fur et à mesure, on se rend compte qu'on est vraiment dans un bon quartier. On est allé un peu dans les quartiers, surtout de l'autre côté de la rivière.
Fleurimont, dans l'est de la ville.
Et on était en mode...
Ben non, c'est pas le beau coin.
c'est mieux vers nous. On est à 5 minutes à pied de Maxi.
Ok, je comprends un peu. Voilà.
On est vraiment dans une rue collée à la rue King.
Ouais. Ah, ben là, c'est un beau spot.
Non, je vais pas dire votre rue. Mais mon copain, il habitait là aussi.
Ok.
D'ailleurs, si vous voulez aller étudier dans un bon café, le Faro sur la Wellington.
On y est allé.
On l'a déjà testé.
Ouais. Bon, c'est pas grave. C'était vraiment
la base.
Je ne
peux
pas savoir.
Quand même, un petit sourcil arrivé.
Okay. Je te laisse continuer.
C'est ça. Mais honnêtement, c'est déjà pour les étudiants, juste permanent, trouver un appartement à Sherbrooke, c'est déjà
c'est très
difficile
compliqué.
Parce qu'il y a tellement d'étudiants.
Ben oui.
Genre, j'aurais peut-être pu trouver en sous-location là, quelqu'un qui est en stage, mais c'est
Tu connais pas trop comment ça fonctionne.
Ouais, c'est
t'es
ça.
T'es pas capable de le voir
à distance.
Et en plus, Eva a eu tellement de complications, comme vous l'expliquiez, avec
les
bon programme. On s'est dit, on va pas se réengager dans un truc un peu douteux.
On avait peur de ça sur Facebook, que tu parles à des gens, tu sais pas si c'est vrai.
Ça se trouve, t'arrives là, en fait, il n'y a pas d'appartement.
Après, Airbnb, t'as quand même une sécurité.
Oui, 100%.
Une sécurité, il y avait plein d'avis, etc. Donc, au final, c'était assez clair, en fait.
T'as un peu acheté la pelle.
C'est ça, Tu payes un peu plus cher, mais au moins, t'es sécure. C'est ça.
Et puis, qu'est-ce qui vous manque le plus présentement de votre maison, de votre vie habituelle, par rapport soit à votre... votre parcours universitaire ou même, je sais, votre vie personnelle?
Moi, je pense que c'est soit le fromage, soit le pain français.
Aïe, aïe, aïe.
Le pain français.
Il est pas bon, notre pain ici.
Il est très bon, mais le pain français est encore meilleur.
Ouais.
Si jamais vous venez, je sais pas si vous êtes déjà venu en France ou à Paris,
ouais.
Mais faut vraiment, les baguettes parisiennes, c'est vraiment quelque chose. Même le fromage, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc ça me manque un peu. Mais sinon, à part ça, il y a pas trop. Pour l'instant, on n'est pas trop dans la. Il fait beau, etc. Ouais. Il fait chaud. Pour l'instant, ça va. J'ai l'impression que ça va vite changer.
J'avais un bel automne.
Ouais. Oui, c'est ça. Il fait hyper beau.
Mais hier, 27 degrés, mais oui, c'est ça.
C'est pas ça, habituellement. Dans deux mois, là,
ouais, ça
va prendre des bottes et un manteau.
Réchauffement climatique.
C'est ça.
Est-ce que vous avez des bottes puis des manteaux?
Ben, un manteau. J'ai demandé ça l'autre fois.
Moi, j'ai un manteau, mais je pense qu'il est pas assez chaud. Et j'ai pas de. J'ai pas de bottes. Mais. En fait, on ne sait pas à partir de quand ça va être vraiment indispensable. Parce que nous, on part en décembre.
Ouais. Novembre.
Ouais, novembre.
Ah ouais, ok.
Ouais. Tu sais, des fois, on va pas le jinxer, on va pas le manifester. Mais des fois, fin octobre, on peut avoir de la petite neige.
Genre passer l'Halloween avec tes salopettes et ton manteau d'hiver quand t'es petit.
Ouais. Ouais. En tout cas, on ne s'en dit rien.
Ouais, Eva, qu'est-ce qui te manque le plus de ta hometown?
Je pense aussi la nourriture.
Ouais.
En vrai, le pain, ça va parce qu'on a une boulangerie qui fait du très bon pain à côté de chez nous. Mais je sais pas, c'est les plats français, même la qualité des produits. Nous, quand on va dans le rayon fromage, on est horrifiés.
Ouais,
on voit
clair,
les trucs en plastique, c'est des cubes.
Je
fais
vrai.
Oui, oui.
Tu sais, mettons.
Genre une fromagerie ou pas.
Ouais, ou tu sais, même dans les.
Genre IGA.
IGA, il n'y
a pas encore allé, peut-être.
Ouais. C'est proche aussi de chez vous.
C'est ça.
Vous irez voir.
OK.
Merci. Mais ça ne sera jamais autant bon. Okay,
c'est comme nous, mettons, je ne sais pas toi, mais quand tu vas aux États-Unis et tu vas dans le rayon des fromages, déjà tu es traumatisé. Fait que j'imagine même pas eux.
Ben oui, c'est sûr que ça doit être un petit. Oh.
Non, c'est ça. Parce que fun fact aussi about me, mon père, il est français, fait que je suis. Okay. J'ai ma double nationalité. Fait que lui aussi, c'est toujours des choses qu'on regarde. Il est bien piqué là-dessus.
Puis, ce serait quoi un essentiel voyage pour un étudiant qui venait comme vous étudier ici à Québec? Ben, au Québec.
Québec? Quoi?
Je viens de Québec. Ça paraît.
Un bon forfait de réseau téléphone.
Ouais, honnêtement.
Parce que t'es tout le temps sur Google Maps ou nous, c'est l'appli STS.
C'est vrai.
Avoir.
Rester assez vrai.
Parce que nous, on a la chance, on est à Paris, il y a un métro toutes les deux minutes qui va partout.
Mm-hmm.
On a des vélos qui sont. Bah, en fait, nous, on n'a pas le problème de la neige, etc. Fait que vous, ici, je crois que les Bixi, c'est hyper récent.
Mais ils viennent d'arriver à Sherbrooke,
c'est ça, ouais.
Genre cet été.
Et on nous a expliqué qu'en partir de fin octobre, il n'y en avait plus.
Oh, je ne savais même pas.
Moi non plus.
Donc, à cause.
Il faut que j'ai fait ça avant qu'il s'en aille.
C'est ça. Donc en fait t'es souvent à devoir regarder le bus où tu vas, etc. Surtout on n'a pas de voiture, en fait on est là que 4 mois. C'est pas rentable en fait de prendre une voiture seulement 4 mois. On a la chance, Sherbrooke, le réseau de bus a l'air plutôt assez développé, j'ai l'impression. Donc t'es souvent en fait en train de regarder comment aller là.
Vous avez l'application Transit? L'avez-vous?
Je crois pas.
Mettez ça.
Hey, vous devez mettre ça. Vous
voyez... Genre, tu mets ton point, puis ça te dit qu'est-ce qui est la solution la plus efficace.
Okay.
Je pense qu'il y a Bixi aussi. Fait que si jamais...
Et à combien... Mettons dans combien... Tu vois l'autobus, le trajet...
Tu vois
combien de temps l'arrive.
OK.
Parce que hier... Enfin, bon, sans raconter nos vies, mais... hier, on était à Magog. On a passé toute la journée là-bas. Le matin, du coup, on a pris un Uber parce que c'était la seule chose qu'on pouvait prendre.
C'était le seul moyen d'y aller.
Et en fait, le retour, ça nous a pris une heure pour réussir à avoir
une
un Uber.
Et
le prix du Uber, enfin bref, on l'a commandé et ça a doublé le prix.
Mais c'est pas vraiment développé à Sherbrooke.
C'est qu'on est comme dans un milieu de campagne. Là. Fait que c'est comme juste Sherbrooke, il y a des bus et tout. Mais c'est même juste moi sur la rive sud de Montréal. Fait que j'étais genre 30 minutes de Montréal. À ma maison personnelle. Genre, prendre un Uber, c'est super cher.
Mais à Montréal,
on est trop loin des centres,
Ça,
à Montréal, c'est correct. À Québec, c'est correct. Mais Sherbrooke, c'est comme un peu région quand même.
Dans Sherbrooke, ça va. Genre, prendre un Uber dans Sherbrooke, moi, j'ai déjà fait. Mais
en tout cas,
à l'extérieur, c'est comme... C'est grand, là, le Québec.
C'est gigantesque. C'est trois fois la France, je crois. C'est énorme.
Est-ce qu'on pose des questions du public?
Oui, mais moi, je voulais faire une dernière question avant,
vas-y,
parce que je veux avoir la réponse. Comment vous êtes intégré dans une nouvelle université pour seulement 4 mois? Est-ce qu'il y a des services à l'université pour les étudiants d'échange? Comment ça fonctionne pour que la transition se passe bien, pour que vous soyez pas dans votre coin pendant 4 mois ici tout seul?
Bah déjà, on a un groupe WhatsApp entre tous les étudiants internationaux. Donc, en fait, c'est... Même avant d'arriver, on était déjà dans ce groupe-là. Donc, c'est assez simple, en fait, de reconnaître les gens avec qui tu as discuté.
Après, il y a quand même 450 personnes.
Ouais, il y a quasiment 500 personnes sur le groupe. Ouais. Et pareil, on a eu plusieurs réunions. Par exemple, moi, je suis à l'Université des Lettres et Sciences Humaines. On a eu 2 ou 3 réunions de visite de l'université, visite du campus pour les étudiants internationaux. On a eu une grande réunion avec tous les étudiants internationaux dans la salle de spectacle du centre culturel. Donc là, pendant toute une soirée, on était tous ensemble, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et puis après, les gens ici sont très accueillants. Donc il n'y a pas trop de problèmes à se faire des connaissances, des contacts, etc. Donc je dirais que c'est ça. C'est pas très compliqué, mais forcément, tu as un peu la barrière de t'es pas d'ici, c'est logique. Moi, quand j'étais en France l'année dernière, les étudiants internationaux, pareil, on voyait que forcément, ils n'étaient pas d'ici, donc c'était plus compliqué de créer un lien. Mais une fois que tu passes un peu la barrière, c'est pas très... Enfin, ça va tout seul, quoi, je dirais.
En fait, aussi, on n'ose pas trop aller vers les Québécois parce qu'on se dit, eux, ils vont rester plusieurs années à Sherbrooke. Nous, on reste que 4 mois. Pourquoi eux, ils voudraient devenir amis avec nous? Genre, c'est un plaisir. mais c'est éphémère. Mais c'est triste de penser comme ça. Ouais, mais moi, c'est comme ça que je pense. Ouais. Je me dis, enfin...
Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais, pour nous, justement, mettons, là, on prend tutoie parce que t'es dans nos cours, là, mais c'était juste le fun et rafraîchissant d'avoir une nouvelle personne à rencontrer, puis avec qui discuter, puis, tu sais, tant mieux, nous autres, dans le fond, on est tout le temps la même petite équipe, puis on, session après session, là, d'avoir quelqu'un de nouveau,
mais dans ce groupe-là, il y a tellement de gens en échange, ils sont genre... 8 filles qui viennent de la Belgique.
Il y a un gros groupe de filles belges.
C'est comme la session.
Parce que nous, on a une grosse gang qui sont parties ailleurs. Genre une trentaine dans notre bac de sang. Genre vraiment beaucoup. Fait que ça fait des nouveaux visages.
Au contraire. Moi, je pense que c'est parfait autant pour vous que pour nous de s'intégrer et puis de parler à de nouveaux mondes. On poursuivra avec les questions du public. Donc, sur notre compte Instagram, on a des abonnés qui nous ont posé des questions pour vous. Puis, je commencerai avec la première qui est, est-ce que vous avez comme l'intention de rester au Québec, au Canada, ou c'est vraiment comme vous êtes de passage, c'est une expérience de vie, puis après ça, on retourne à notre routine en France?
Là, étant donné que notre diplôme en France n'est pas terminé. Moi, je ne peux...
Vous n'avez pas le choix.
Tout simplement pas rester. Il faut que je rentre en France pour continuer mon diplôme. Et après, pareil, on a nos diplômes en France à valider, etc. Je pense que si on était là pour la maîtrise, la question se poserait déjà. Parce que, on aurait peut-être des perspectives professionnelles ici. Mais concrètement, on ne peut pas rester parce qu'on n'est pas au niveau assez haut, pour envisager de rester. Après, de revenir, dans 5 ans, 10 ans... Pourquoi pas, on verra où on en sera d'ici là. Mais concrètement, actuellement, c'est pas qu'on veut pas rester, c'est qu'on peut pas.
Après, moi, j'avais pensé aussi à la possibilité de rallonger mon échange, donc de aussi rester pour session de
d'hiver.
Donc nous, deuxième semestre, mais je crois qu'en fait c'est pas possible. J'avais regardé et ils proposent plus, mon université propose plus Sherbrooke au deuxième semestre, donc je sais pas pourquoi, mais de toute façon je pense que c'est un peu tard, j'aurais dû faire un an d'un coup, mais je trouvais qu'un an d'un coup ça faisait un peu peur, je me suis dit un semestre c'est plein.
Parfait.
Prochaine question du public. Est-ce que vous pouvez y aller n'importe quand dans votre parcours universitaire, dans le sens, est-ce que c'était cette année que vous deviez faire un échange? C'est nous, dans le programme, c'est ça, c'est genre session d'automne de ta troisième année. Tu peux aller en échange, mais est-ce que vous pouvez y aller n'importe quand?
Eva, tu disais que c'était à ta troisième année.
Je sais pas trop si... En fait, quand on est dans notre première année, ils nous parlent pas du tout de ça. En première année, je savais même pas que ça existait. C'est vraiment à la deuxième année que j'ai appris ça, donc Je pense que c'est vraiment plus pour la troisième année, déjà pour que ton dossier soit plus rempli, parce que si toi, du coup, voilà.
Moi, je suis qu'en deuxième année, donc on en parlera après, c'est ça.
Et après, concernant premier ou deuxième semestre, parce que nous, du coup, premier semestre, c'est septembre à décembre, janvier, et deuxième semestre, janvier, février, jusqu'à mai. Et je me souviens plus trop s'ils avaient dit plutôt le premier ou le deuxième. Je crois qu'ils avaient plutôt dit le premier, mais il y en a quand même qui font le deuxième. Enfin, les deux, c'est possible.
C'est un peu plus loose.
Moi, je suis en deuxième année, du coup, donc je suis parti en échange. Il n'y a pas... On n'est pas imposé de partir forcément à cette période-là. En fait, c'est juste à partir de quand l'information
arrive à toi.
En fait. C'est ça. Moi, j'étais en première année quand j'ai appris qu'on pouvait faire des échanges, donc je me suis renseigné. Et donc, techniquement, on pouvait partir à partir du première session de la deuxième année, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, là, c'est le début de ma deuxième année, en fait. Mais il n'y a pas on n'est pas imposé de partir à une certaine période. Il y a même certaines formations qui imposent de partir à l'étranger. C'est pour valider ton diplôme, tu dois faire un an à l'étranger. Ça, c'est plus les écoles privées, mais ça existe dans certaines formations, etc. Tu dois faire, j'ai quelqu'un qui est en école d'ingénieur. Il doit forcément faire un an, je crois, en Asie pour valider son diplôme.
C'est précis.
Donc, c'est ça, ouais. Mais il n'y a pas de période obligatoire, en fait, pour partir.
OK. Puis, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous appréhendiez avant votre arrivée au Québec? Que vous disiez...
Ça me stresse, ça risque d'être différent.
J'ai l'impression. En fait, je ne sais pas. Non, mais en fait, j'avais peur. J'avais peur de ne pas comprendre le québécois. Ouais, l'accent, en fait, quand je parle avec des gens, que c'est une discussion comme ça, oui, d'accord, ça va. Mais j'avais peur que les profs, ils utilisent des mots que je comprends pas et que j'ose pas demander. Mais au final, sur mes profs, je pense qu'il y en a que deux qui ont l'accent québécois. Les autres, ils sont canadiens anglophones ou... Enfin, voilà. Donc, au final, ça va, mais j'avais un peu peur de ça, j'avoue.
Mais c'est un bon point.
C'est une réflexion en plus que je me suis dit cette session. Tous nos profs ont un accent français.
Oui. Donc, c'est vrai.
J'étais comme, voyons, c'est dans
spécial.
À part Marc.
À part Marc. Non, pas tellement d'appréhension. Déjà, en fait, c'est hyper confortable de partir à deux. Tu pars pas tout seul.
J'aurais été encore plus stressée.
Ouais, c'est sûr.
Tu pars pas tout seul. On n'a même pas de barrière de la langue parce que c'est français. C'est pas un pays en conflit ou quoi. C'est un pays du monde. Enfin, c'est très développé. C'est pas. Donc, moi, j'ai aucune appréhension, honnêtement. La seule appréhension qu'on aurait pu avoir, c'est si on était parti pour la session d'hiver pour la météo. Mais on nous a dit qu'on va partir. En fait, on va commencer vraiment à être compliqué, mais on va partir. En fait, on part en décembre, donc. Ça va aller.
C'est encore le fun, c'est encore beau. C'est ça. Qu'est-ce qui est plate, c'est le
janvier, février, visiblement. C'est pour ça que, notamment, il y a beaucoup plus de gens qui demandent le Canada pour la session d'automne. Les demandes de session d'hiver sont... C'est beaucoup plus facile, par exemple, d'avoir son premier choix, dans les trois choix qu'on vous expliquait au début, si tu demandes la session d'hiver, en fait, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes. Ouais. Parce que j'imagine qu'arriver dans un pays inconnu en janvier-février, ici, c'est un peu dur.
J'ai l'impression que septembre, c'est plus facile de s'intégrer parce que tu as les nouveaux québécois, plus tu as les étudiants internationaux, c'est plus accès intégration. Ouais. Alors que, je sais pas, mais si tu viens en janvier, je suis pas sûre que
t'arrives
ça
en plein
soit
milieu,
comme ça
peut être plus compliqué, je pense.
Même les gens qui commencent leur bac à l'hiver, il y a certains programmes qui l'offrent. C'est plus dur leur intégration parce qu'il y a moins d'activités.
Les groupes sont déjà établis, etc. C'est compliqué.
Puis, c'est quoi qui vous a le plus surpris, soit positivement ou négativement, du Québec, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris?
Moi, j'ai un truc, c'est on a l'impression que vos feux durent une éternité.
C'est vrai, ça. Les lumières.
Les feux de stationnement, les feux de passage, ça n'a rien à voir avec les études. Peut-être les études, on parlera, mais vraiment, j'avais envie d'en parler. Mais les passages piétons durent tellement longtemps.
Mais oui, la première fois qu'on est arrivé à Sherbrooke, déjà, on savait pas qu'il fallait appuyer sur le bouton. On est resté là.
Ah non.
À attendre, je sais pas combien de temps.
On peut traverser. Ah, okay.
Voilà. Les voitures, elles roulent vite, donc on n'osait pas traverser.
Non. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un coin rural, parce qu'à Montréal, tu appuies pas sur un bouton. Genre,
oui,
ça va rentrer tout seul.
Ce qu'on nous a expliqué.
Mais ici,
parce que du coup, on est arrivé à Montréal, on a passé avec les amis de ma famille, etc. On a passé quelques jours à Montréal. Donc là, c'est une énorme ville, donc ça. C'est plus simple,
c'est
mais on arrive à Sherbrooke. Mais quand est-ce qu'on peut traverser dans cette ville? C'est pas possible. Genre.
Les deux de Il prend un
Et sinon, un peu concernant les cours, c'est beaucoup plus pratique qu'en France. En France, c'est très théorique qu'on va étudier les grands concepts, les grands auteurs du 20e siècle, du 19e siècle, etc. Là, concrètement. Un cours, on crée des sites web, on crée des pubs, on fait un podcast, genre c'est beaucoup. En France, il n'y aurait pas ça. Ça, ce serait dans le cadre d'une association étudiante. Ouais, ce serait pas évalué dans le cadre de la formation. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Le mot manuel, c'est pas le bon, mais c'est
pratique, ça.
Pratique, c'est le bon mot en fait. C'est beaucoup moins théorique, beaucoup moins le prof qui parle. Tu écoutes, tu prends des notes. Et l'évaluation, c'est une grosse dissertation de 4 heures où tu dois résumer toutes tes connaissances, etc. Donc, c'est un peu la grosse différence majeure avec les feux de
Mais je pense que ça vient aussi avec l'Université de Sherbrooke, le côté pratique, là, parce que c'est un point connu, alors que si tu vas plus à Montréal ou ailleurs, c'est
plus théorique.
Ouais, je pense que c'est un de leurs points de vente.
Puis de ton côté, Eva, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, à part les feux de circulation?
Moi, ce qui m'a surpris, c'était la gentillesse des Québécois. Pour prendre comme exemple, par exemple, quand on était à Montréal, on allait au Mont-Royal et on était en bas. Et on ne savait pas où était l'entrée, on était comme ça. Il y avait d'un côté des travaux, d'un autre côté un terrain de tennis. On était en mode « Oula, on va où ?» Et là, il y a un monsieur, il voit qu'on est perdu et... Genre, carrément, il nous emmène jusqu'à l'entrée du parc. C'était au moins 10 minutes à pied.
Il a marché 10 minutes, un quart d'heure avec nous.
Et on a tapé la discute et tout. Enfin, vraiment super, super gentil, quoi. Et puis même, je trouve ici, les profs, ils sont très gentils. Enfin, souvent, ils disent « Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. » Enfin, j'ai l'impression que par rapport à la France, ici, on est plus égaux avec les profs. Alors qu'en France, c'est il y a plus de hiérarchie.
Déjà, ici, il y a le tutoiement. Il y a beaucoup de profs qui veulent qu'on les tutoie, alors qu'en France, c'est très, très rare. En France, c'est monsieur, madame.
Bah, tu dis jamais tu à un
c'est
prof.
C'est ça. Hein. Et même par mail, etc., c'est bien cordialement, mais sincère. Enfin, c'est très cadré. Ouais. C'est le prof au-dessus, les élèves en dessous. Ici, il y a quand même la hiérarchie. Le professeur est au-dessus des élèves. Mais c'est moins marqué, je trouve, qu'en France. J'ai un professeur, par exemple, qui m'a dit « Si jamais il y a un problème sur un de tes projets, etc., on voit quand on est dispo, on s'appelle en visio sur Teams pendant notre temps libre. » En France, ça, c'est impensable. De se dire qu'on contacte le prof vraiment sur quelque chose de très précis sur nos heures, sur nos jours off, quoi. C'est vraiment ça, une grosse différence, en fait, aussi, qu'il y a par rapport à la France. C'est beaucoup plus cool, en fait. Le mot, c'est ça, genre, c'est plus relax, genre.
C'est beau à entendre.
Oui, c'est ça, vous avez vraiment de la chance, genre, c'est vraiment bien. Ouais.
Mais c'est vrai que les profs sont disponibles, ouverts à nous parler.
Ça se terminerait là-dessus, nos questions. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Oui.
Ma dernière question, ma préférée, c'est l'anecdote. Je vous en avais raconté un petit peu. Est-ce que vous avez une anecdote universitaire, soit de votre échange ou même à votre maison, farfelu, un événement qui vous est arrivé que c'était pas très glorieux?
Je sais pas. Mais attends.
Quand on est revenu.
On a pensé à la mer.
Quand on est revenu. Parce que du coup, des fois, on va à Montréal. Du coup, on revient en autocar. Du coup, vu qu'on n'a pas de voiture ici. Et Sherbrooke, c'est vraiment très pentu.
Oui.
On avait une valise de 25 kilos. Moi, ça m'a marqué parce que c'est moi qui ai porté la valise. Une valise de 25 kilos à remonter sur la rue King qui. Parce que c'est une montagne.
Oui.
C'est l'Everest. Et ça, c'est à 23h le soir, 23h minuit. C'était horrible. J'ai vraiment beaucoup de mal à la montée. Donc, c'était vraiment. En plus, c'était au tout début. Je me dis, les 4 mois vont être.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Vont être sportifs, genre.
On va avoir des mollets en acier.
C'est ça. Mais sinon, les feux de circulation, ça. J'y suis toujours pas fait.
C'est vraiment drôle.
Ah, ben, c'était vraiment une belle discussion. On espère que vous avez aimé ça, mais ben, honnêtement, vous êtes deux personnes vraiment, vraiment cool, puis on en a full appris, fait que merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci à vous.
Puis, ben, profitez du maximum du Québec, du Canada. Je pense que on a un beau pays, puis ben, vous avez de quoi vous amuser.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci. Fait que on se revoit au prochain épisode.
Bye!
Bye!
Au revoir.